Plusieurs membres du 18e gouvernement ont effectué leur premier déplacement officiel ce matin. Alcide Ponga a rendu visite aux effectifs de la sécurité civile, tandis que Christopher Gigès a constaté les avancées du chantier de la société Le Froid. La présence de requins à Lifou inquiète. La baignade et les activités nautiques sont suspendues pour les centres de vacances et de loisirs jusqu'à nouvel ordre. 2025, l'année du retour des touristes internationaux en Calédonie. C'est ce qu'espèrent les professionnels du tourisme qui multiplient les campagnes de publicité. La rentrée scolaire approche et le Mondor se mobilise pour offrir des fournitures scolaires aux familles en situation de précarité. Un mot de sport également dans ce journal. On parlera tennis avec l'Open d'Australie et le programme des matchs à retrouver ce soir. Il y aura également du cyclisme et la suite du Tour Down Under. Bonsoir à tous, bienvenue dans InfoSoir pour tout savoir de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et dans la région Pacifique. C'est une semaine chargée pour certains membres du gouvernement qui ont effectué leur première visite de terrain aujourd'hui. A commencer, Charlotte Coulson, par Christopher Gigès, membre du gouvernement, notamment en charge de l'économie, qui était sur le site de la société Le Froid à Montravel.
On se souvient de ces images dramatiques dans la nuit du 13 au 14 mai dernier. Le site de la société Le Froid en proie aux flammes. Depuis, plusieurs incendies ont presque totalement détruit les bâtiments et les outils de travail du site, étendu sur 1,6 hectare à Montravel. Ce matin, Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge de l'économie, a choisi de visiter ce qu'il reste de l'usine Le Froid pour sa première sortie officielle. Il en a profité pour annoncer ce que le gouvernement allait mettre en place pour soutenir les sociétés calédoniennes touchées ces derniers mois par les exactions.
Pour montrer que le gouvernement est aux côtés de ceux qui ont tout perdu le 13 mai, enfin, on a un véritable devoir moral vis-à-vis de ceux qui ont subi ces exactions et qui aujourd'hui ont de nouveau confiance dans la Nouvelle-Calédonie pour réinvestir. Et donc on a le devoir d'être à leur côté. Et la première chose, c'est d'être sur site avec eux pour voir ce qui s'est passé. Il y a plusieurs choses. Il y a déjà leur simplifier la vie. Simplifier la vie, c'est mettre en place un guichet unique où il y a une porte d'entrée avec des référents qui seraient désignés dans l'ensemble des administrations. Donc je ferai le tour à la fois de la province, des mairies, du gouvernement pour ce qui me concerne et de l'État ainsi que des assurances et des banques pour qu'on puisse avoir des référents et qu'une porte d'entrée unique qui permet de faciliter les démarches administratives. Mais faciliter les démarches administratives, c'est aussi les réduire. Donc de faire un travail pour réduire toutes les contraintes qui seront liées à la reconstruction, que ce soit de l'ordre économique, de l'emploi ou environnemental. Et c'est enfin d'aller chercher des aides à leur côté, auprès de l'État, auprès de fonds européens, auprès d'autres organismes, pour qu'ils puissent avoir des aides importantes sur la reconstruction.
Le site est actuellement en voie de sécurisation avant que ne puissent commencer les travaux de déconstruction. Elle se fera en plusieurs phases. On écoute les détails de Nicolas Troboas, le directeur général de la société Le Froid depuis 2013.
Il y a trois phases de démolition. Là, on vous montre la première qui correspondait à la mise en sécurité du site avant la saison cyclonique. La deuxième phase, ça va être Ground Zero, comme on dit. Donc ça va être la mise à nu de la dalle. Et la troisième phase, ce sera en fonction de l'usage futur que décidera Madame le maire. Il y aura un traitement de dépollution qui devra être proportionnel aux ambitions du site futur. Alors aujourd'hui, on envisage de reconstruire, en tant qu'entreprise emblématique de Nouvelle-Calédonie, sur l'emplacement géographique, c'est à définir dans le temps.
Et malgré les difficultés rencontrées par la société Le Froid, Nicolas Troboas espère reconstruire au plus vite, d'ici 3 à 4 ans, pour un coût total estimé à près de 15 milliards de francs.
Le président du gouvernement, Alcide Ponga, a de son côté rendu visite aux équipes de la DSCGR, au Centre d'intervention et soutien spécialisé de Nouméa. Après avoir pris le temps de saluer l'ensemble des équipes, le président du gouvernement a tenu à remercier les personnels mobilisés sur les incendies survenus en ce début d'année, notamment au Mont d'Or.
Allocution du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Bravo.
Merci à tous. Voilà, je vais commencer comme ça. Je dis merci pour les différents corps de métier qui sont ici au service de la population et eux aussi, d'autant plus qu'eux se font aussi agresser. On a cette problématique-là et j'aurais dit merci parce qu'on a encore la chance d'avoir des gens, vous avez des professionnels, mais vous avez surtout des volontaires. Je devais rencontrer ces hommes et ces femmes aussi qui se mettent au service de la population, parce que eux, comme les infirmiers, comme les docteurs, comme les policiers, comme les gardes champêtres dans les communes, ce sont des fonctions qui sont au service de la population.
Cette première visite de terrain d'Alcide Ponga marque un intérêt fort du nouveau gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour les sapeurs-pompiers engagés sur le territoire. Un honneur pour le colonel Frédéric Marquilekia. Le directeur de la sécurité civile en Nouvelle-Calédonie en a profité pour rappeler au président que les effectifs sont insuffisants pour assurer la sécurité des Calédoniens.
C'est l'honneur qu'il nous fait de nous réserver sa première visite sur le terrain. Donc, c'est un signe fort qui est envoyé à la sécurité civile en général et aux pompiers en particulier qui, vous le savez, ont été mis à rude épreuve depuis le mois de mai, mais également sur les derniers feux du Mont d'Or. Donc sa présence parmi nous, dès ses premières journées sur le terrain, vraiment ça fait chaud au cœur, clairement. Aujourd'hui, il y avait un double effectif. Il y avait les pompiers du territoire donc, qui sont placés sous l'autorité du président. Donc c'est un effectif qu'on peut fixer à 60 à peu près, sachant qu'il y en a 40 au sud et une vingtaine au nord. Malgré tout, et j'ai attiré l'attention du président, ces effectifs sont encore insuffisants, notamment pour faire face à un gros coup, comme on dit chez nous, un cyclone, quelque chose qui mobiliserait beaucoup de ressources humaines. On n'a pas suffisamment d'effectifs. Mais bon, les temps font qu'il est difficile d'avoir de la ressource humaine, donc on répondra toujours aux sollicitations de la population. Parfois, il faudra faire preuve d'un peu de patience, mais j'ai confiance sur mes effectifs comme sur la population pour une certaine qualité de résilience.
28 sapeurs-pompiers de métropole sont arrivés ces derniers jours sur le territoire. Ils sont répartis dans différentes unités pour former des équipes mixtes avec des soldats du feu calédoniens.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier, sur laquelle les auditeurs de Radio Rythme Bleu sont très partagés. 50% d'entre eux pensent en effet qu'une majorité stable va se dégager au gouvernement après l'attribution des secteurs. Ils sont donc 50% à penser que ce ne sera pas le cas. Et voici la question du jour. Alors qu'il manque en Calédonie de très nombreux professionnels de santé, pensez-vous qu'il serait judicieux d'étendre à l'ensemble des soignants et non aux seuls médecins un abattement fiscal pour les professionnels s'engageant à exercer 5 ans sur le territoire? Si vous pensez que cela pourrait être judicieux, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Passons à l'actualité politique et le FLNKS qui prépare son 44e congrès. Il se tiendra le week-end prochain à Saint-Louis au Mont-d'Or avec un ordre du jour chargé qui sera principalement consacré aux discussions sur l'avenir institutionnel. Dominique Fauchy est le secrétaire général de l'UC et anime en ce moment le BP du FLNKS.
À l'ordre du jour, il y aura bien sûr le bilan depuis le dernier congrès de Pagou, bilan de la mise en œuvre des motions, la partie des discussions, négociations sur l'avenir du pays, où il faudra que le FLNKS définisse le cadre, le contenu des négociations, l'équipe qui va aller porter ça dans le cadre des négociations et toute l'organisation du FLNKS pour la séquence, que ce soit au niveau de l'équipe discussion, au niveau de l'équipe technique, de la mobilisation, du bureau politique, des relations extérieures. On a dit qu'on était en phase préparatoire depuis les congrès respectifs des groupes de pression. Et sur la suite de ce congrès, on sera en phase de discussion, de négociation, et devra aboutir sur un accord politique. Nous donnons une date fixe d'indépendance.
Le PALIKA et l'UPN qui ont été invités se réuniront pour l'un en Assemblée Générale à Wailou et pour l'autre en Comité Central à Dumbéa samedi. Ce qui veut dire que les deux partis historiques ne devraient pas participer au congrès du FLNKS. Ce congrès sera en revanche suivi par des partis indépendantistes français et hollandais qui sont réunis à Nouméa depuis ce matin. Des représentants de Corse, Guyane, Martinique, Guadeloupe, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie participent au congrès des dernières colonies françaises. Il s'agit d'une réunion qui fait suite à la création du Front international de libération des colonies françaises qui avait vu le jour sous l'impulsion de l'Azerbaïdjan, c'était en juillet dernier. À retrouver maintenant sur notre antenne, l'ISEE prépare un nouveau recensement de la population. Prévu initialement en 2024, il n'a pas pu avoir lieu en raison des émeutes. Comment se prépare ce recensement? Quand aura-t-il lieu et dans quelles conditions? Élise Desmazures, la directrice de l'ISEE, sera demain matin notre invitée à 7h30. Et à propos des rendez-vous RRB, notez également demain la reprise du club politique après plusieurs semaines de pause. Elisabeth Noir retrouvera les consultants temps habitué pour commenter l'actualité politique plutôt intense de ces dernières semaines. Le club politique de Radio Rythme Bleu, c'est demain, vendredi, à partir de 16h45. Une émission rediffusée le samedi à 11h et à retrouver sur notre site internet. Allez, 17h55, l'heure de marquer une première pause dans ce journal. Avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire, je vous dis à tout de suite.
Rentrée des classes, on a tous un peu la tête ailleurs et le budget pas au meilleur de sa forme. Alors imaginez, cette année, jusqu'au 16 février, Gémeaux vous propose un t-shirt ou un débardeur pour 10 francs. En effet, pour l'achat d'un short ou d'un bermuda en 4-12 ans, le t-shirt ou le débardeur est à 10 francs seulement.
Gémeaux, taillé pour la vie de famille.
Voir conditions en magasin sur article signalé dans la limite des stocks disponibles.
Savez-vous que la lèpre touche encore une personne toutes les 2 minutes? Aujourd'hui, ce fléau mutile, handicape et exclut 3 millions de lépreux dans le monde. Engagé contre la maladie, l'Ordre de Malte dépiste, soigne et fait avancer la recherche.
À l'occasion de la Journée mondiale des lépreux, l'Ordre de Malte organise une quête ce samedi 25 et dimanche 26 janvier. Soyez généreux.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite du journal, Yana Colombo.
Oui, et les vacances des enfants perturbées par la présence de requins à Lifou. La mairie a en effet alerté hier la population sur l'observation de requins de type marteau, bulldog et tigre sur l'ensemble des côtes. Charlotte Coulson.
Et oui, on le sait, la période chaude est plus propice à la reproduction des squales. À Lifou, ils ont été repérés à de nombreux endroits, plus particulièrement au port de Wé, à la marina, à la base de voile et près du littoral de la tribu de Mou. Dans ce contexte, le maire Nekone Peoun a pris un arrêté interdisant la baignade et les activités nautiques, uniquement pour les centres de vacances et de loisirs. Amélia Lallier est directrice de la Fédération socioculturelle de Nodegeu. Le centre de loisirs est situé à la tribu de Juanono, soit juste à côté de la côte. Il a donc fallu improviser et trouver de nouvelles activités pour les 34 enfants que le centre accueille.
En fait, on est à côté de la plage, donc la plupart de nos activités se font à la plage ou à la mer, tout ça. Donc forcément, ça nous impacte. Les enfants sont très déçus. Donc on a dû réorganiser encore le programme des activités. On a dû faire une réunion de régulation hier afin de réorganiser, d'avoir encore plus d'activités avec les enfants. Ne sont pas encore déçus car effectivement, la mer, on va dire, c'est un espace assez ludique quand même pour les enfants. Donc, voilà. Mais là, c'est vraiment de l'improvisation. Donc l'activité manuelle, on a fait des sables colorés hier. On a fait de la danse. Voilà, on s'est adapté hier. Pour la semaine prochaine, si jamais les interdictions seront levées, je vais quand même prendre des précautions et contacter les pompiers, tout ça, pour avoir plus de sécurité.
Et la baignade ou les activités nautiques ne sont pas interdites en dehors des centres de loisirs, mais le maire de la commune appelle à la plus grande vigilance.
Un risque requin intense qui n'affecte pour le moment pas cette nouvelle. Le consulat australien a abaissé le niveau d'alerte de conseil aux voyageurs sur les risques encourus d'un cran. La destination était déconseillée au plus haut niveau depuis les émeutes de mai 2024. L'alerte est désormais au niveau dit « médium ». Une bonne nouvelle, fruit d'un long travail de communication, explique Julie Laronde, directrice de Nouvelle-Calédonie Tourisme.
On a engagé un travail de rassurance depuis le mois d'octobre et novembre, parce qu'il faut reconstruire l'attractivité et l'image de la destination, forcément à l'étranger, puisque l'image a été un petit peu détériorée, avec des vidéos de témoignages de prestataires locaux, de touristes aussi qui sont revenus fin d'année dernière. On a également lancé une campagne de communication d'envergure pour dire, voilà, sans nier ce qui s'est passé, hein, en disant, voilà, la Nouvelle-Calédonie, c'est un nouveau départ pour le tourisme, etc. Et donc, on veut reconstruire cette attractivité. On a également lancé une campagne de vente en fin d'année dernière pour stimuler les réservations. Alors, c'est pas encore satisfaisant, mais normalement, cette année, on devrait ponctuer l'année avec des campagnes de vente régulières pour booster ça. Donc ça va être un travail de longue haleine, en tout cas tout le premier semestre, pour voir progressivement remonter les flux touristiques internationaux.
En 2023, les visiteurs internationaux représentaient environ 50 milliards de francs de recettes dans l'économie calédonienne, un chiffre qui a en toute logique drastiquement baissé depuis les émeutes. En bref, cette information, événement incontournable consacré à l'innovation technologique et aux start-up, le salon VivaTech 2025 se tiendra du 11 au 14 juin à Paris cette année. Peut-être y verrons-nous des entreprises calédoniennes. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie lance donc un appel à candidature pour constituer une délégation. Un stand est déjà réservé sur le salon. Il ne manque que 8 entreprises locales qui pourront y prendre place et présenter leurs produits. Pour postuler, il faut remplir certains critères détaillés sur le site du gouvernement. Les candidats retenus devront ensuite détailler leur création devant un jury constitué de plusieurs représentants du gouvernement et de ses partenaires. La date limite du dépôt de candidature est fixée au 5 février à 23h. Passons maintenant à l'actualité dans la région et le Vanuatu qui s'enfonce dans le marasme politique. Le résultat des élections générales qui ont eu lieu la semaine dernière est toujours officieux, mais il montre que la classe politique est morcelée et qu'il faudra encore faire jouer les alliances pour trouver une majorité. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Des amendements constitutionnels votés l'an passé étaient censés apporter une certaine stabilité au sein de la nouvelle Assemblée et du gouvernement qui en émanerait. Au vu des résultats officieux du scrutin et des rumeurs qui circulent à Port-Vila le concernant, il est clair qu'aucune majorité ne s'en est dégagée, dans la mesure où la formation politique ayant jusqu'à présent remporté le plus grand nombre de sièges ne pourrait prétendre en disposer en fait que d'une dizaine, alors que 26 au moins sont requis pour asseoir une majorité stable au Parlement. La pléthore de petits partis et de candidats dits indépendants ou sans étiquette est la cause de ce marasme, lequel, en dépit des amendements constitutionnels votés l'an passé, vient à nouveau de démontrer que le Vanuatu demeure sans orientation politique précise et reste donc ingouvernable. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Allez, 18h passées de 2 minutes, c'est ainsi que nous marquons une dernière pause dans ce journal avant de revenir à l'actualité calédonienne.
Vous avez besoin de conseils pour faire travailler votre épargne, payer moins d'impôts, préparer votre retraite? Nous sommes là pour vous guider. Avec Caplif, développez votre patrimoine pour construire votre avenir. Contactez Caplif au 28 30 00, RIAS 170 052, ORIAS 13 103.
Chez Sima Quincaillerie, à partir du 2 janvier, c'est le mois des prix choc. La scie circulaire Makita diamètre 190 mm est vendue 16 600 francs, dans la limite des stocks disponibles. Plus d'infos sur simac.nc, à Nouméa, Carrefour du 4e et à Koné, lotissement Katéviti. Sima Quincaillerie, tout le monde s'y retrouve.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal, Léana Colombo.
Femme dirigeante, inspirée et inspirante, c'est le thème d'une formation lancée par la CCI à l'attention des femmes chefs d'entreprise qui œuvrent dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Nous en avons parlé dans les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu à midi. Et ce sont 7 femmes qui ont été sélectionnées cette année pour intégrer ce programme qui reste une nécessité, nous a dit Jessica Bouillet, élue à la CCI.
Ma question, c'est pourquoi encore aujourd'hui on a besoin de ce genre de projet ? Mais c'est une réalité pour les institutions en général, hein, et la CCI y compris, hein, le nombre d'élus et femmes est inférieur à celui des hommes. Donc l'idée de base, c'est de mettre en avant les femmes et les femmes dirigeantes. À ça s'est ajoutée l'économie sociale et solidaire, qui permettait en fait aussi d'aborder un sujet assez nouveau, hein, l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est pas nouveau dans les faits, mais c'est nouveau dans les mots. Aujourd'hui, les candidates qui ont été sélectionnées, elles ont des attentes, elles ont des besoins, et ce programme prévoit de les accompagner là-dessus.
Cathy Manet, gérante de la librairie Calédo-Livre, fait partie des femmes sélectionnées pour suivre ce parcours cette année. Une belle opportunité, selon elle.
Surtout avec ce qu'on a vécu, en fait, ça devenait très très compliqué. Et le fait d'être accompagnée, c'est toujours bien d'avoir un regard extérieur sur ce qu'on fait. Quand on est dirigeant, chef d'entreprise d'une petite entreprise, en fait, on a le nez dans le guidon, comme on dit, on fait tout. Et donc, c'est souvent difficile d'avoir du recul, de prendre un moment, de se poser, de faire le point, le bilan. et être accompagné, c'est toujours un plus, effectivement, pour se remettre en question, évoluer, avoir des idées, se réinventer, etc. Mmh. Et avoir un regard, effectivement, comment se réinventer dans une situation aussi catastrophique que la nôtre, avec toujours la dimension solidaire et œuvrer pour tous.
Cette formation, qui durera jusqu'au mois d'octobre, se fait à la fois sous forme de séminaire, de temps d'échange et d'accompagnement particulier. Une émission à retrouver en audio et vidéo sur notre site internet rrb.nc. Parlons maintenant rentrée scolaire et solidarité. Malgré les difficultés financières de la commune, Le Mont d'Or maintient la distribution de ses bons de rentrée scolaire aux familles les plus démunies. Cette année, ce sont 31 familles, dont 60 enfants, qui se sont vus remettre des bons. Un premier servira à l'achat de chaussures et de vêtements. Le second sera pour les fournitures scolaires. Deux distributions ont été effectuées cette semaine, la première au Vallon d'Or. Et ce matin, c'est à Boulary que les habitants avaient rendez-vous. Un geste solidaire apprécié de ces familles très souvent dans le besoin.
Mon fils rentre en quatrième cette année, donc plus de dépenses, donc plus de besoins. Et d'un côté, ça nous permet d'avoir une petite réduction sur les dépenses qu'on a prévues en début d'année.
Moi, mes deux enfants, 12 ans et 16 ans, lycée et collège. Et ça va faire du bien parce que moi, dans mon travail, j'ai perdu, on a diminué les heures. Donc les dons seront les bienvenus. D'habitude, je ne viens pas. Hein. Je me dis qu'il y en a beaucoup qui en ont plus besoin que moi. Mais là, je ne vous cache pas que oui, là, j'ai besoin.
En parallèle de cette distribution effectuée en partenariat avec le Kiwanis Club, les bénéficiaires du dispositif ont participé à des ateliers de sensibilisation sur la sécurité numérique, ainsi qu'à l'accompagnement aux démarches à effectuer sur Internet. Et au campus universitaire de Nouville, c'était journée d'intégration. Jusqu'à la semaine prochaine, près de 700 étudiants peuvent rencontrer les différents partenaires de la maison de l'étudiant. Ils sont là pour faciliter les démarches administratives. Pour cette rentrée universitaire 2025, il y a eu 832 demandes de logement depuis la mi-décembre 2024. Une centaine est encore en attente. Cette année, on compte 284 réadmissions prioritaires. Côté logement, la priorité est donnée aux étudiants les plus méritants de l'an dernier. Et une chose est sûre, loger sur place est un atout, expliquent ces étudiants qui vont retrouver leur logement.
J'ai travaillé l'an dernier, j'ai eu mon année. Mon logement est impeccable comme à l'entrée. J'ai pris soin de tout ce qu'il y avait à l'intérieur et j'ai commis aucune infraction vis-à-vis du règlement intérieur. Vis-à-vis de l'alcool, la drogue, etc. Parce que c'est les choses les plus récurrentes qui se passent sur le campus. Ça me permet de me réveiller beaucoup plus tard le matin. Si j'ai cours à 7h30, je me réveille à 7h. Donc c'est bien mieux pour moi et ça m'évite de faire la route. Et ça évite aussi mes parents de descendre. J'habite à Latamoire.
J'habite à Cuccio, mais c'est sûr que c'est mieux d'avoir une chambre. Ça évite de repartir à la maison. Et puis même quand t'es toute seule et tout pour réviser, c'est plus agréable. Il y a tout, il y a des salles d'études. Dans la chambre, on a Internet.
Ben, c'est surtout avec l'assiduité due au travail à l'école l'année précédente. Le bon comportement au sein du campus et le travail fourni à l'école. C'est ce qui a fait que j'ai été prioritaire en réadmission cette année.
Ça facilite l'école, surtout le transport à l'école et le travail autonome.
Pour les étudiants retardataires, une nouvelle session d'inscription est prévue en mars auprès de la maison de l'étudiant. On termine ce journal avec du sport, du tennis et les demi-finales du tableau dames de l'Open d'Australie ce soir. La numéro 1 mondiale et tenante du titre, Arina Sabalenka, jouera dès 19h30 contre sa meilleure amie, l'Espagnole Paola Badosa. La rencontre sera suivie de la seconde, de la deuxième et demi entre Iga Swiatek, tête de série numéro 2 du tournoi, et l'Américaine Madison Keys. Chez les hommes, rendez-vous demain avec un duel entre Novak Djokovic, vainqueur, je le rappelle, à 10 reprises de l'Open d'Australie, et Alexander Zverev. L'Italien Yannick Sinner affrontera quant à lui Ben Shelton, qui poursuit sa progression après avoir sorti en début de semaine le dernier Français de la compétition. Je parle bien sûr de Gaël Monfils. Enfin, toujours en Australie, mais du cyclisme, la troisième étape du Tour Down Under a été remportée par l'Espagnol Javier Romo de l'équipe Movistar. Après avoir couru 147,5 km sous un ciel couvert, il triomphe de manière spectaculaire et se place devant l'Équatorien Jonathan Narvaez et le Néo-Zélandais Finn Fisher-Black. Javier Romo, qui a franchi la ligne d'arrivée en solitaire, célèbre à la fois sa première victoire chez les professionnels, mais aussi son ascension mention au sommet du classement général. L'Espagnol se positionne désormais comme un sérieux candidat à la victoire finale du Tour Down Under 2025. À 18h09, on passe à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Alors, il n'est pas premier au classement du Tour Down Under, mais il est premier pour nous dire la météo, et c'est Nicolas.
Oui, avec certitude même. Cette nuit, sur la côte ouest, les passages nuageux alterneront avec quelques belles éclaircies. Ailleurs, les nuages seront plus nombreux, en particulier sur l'est en début de nuit et aux Loyautés, où des averses seront attendues. Sur l'est et aux Loyautés, le vent de sud-est soufflera de 10 à 15 nœuds. Ailleurs, il soufflera au secteur est entre 5 et 10 nœuds. Localement variable faible sur l'ouest, les températures minimales remontent et seront comprises entre 24 et 26 degrés en général, localement 22 à 23 degrés sur l'ouest et aux Loyautés. Demain matin, aux Loyautés, les nuages circuleront en donnant des averses. Ailleurs, le temps sera sec avec des éclaircies qui s'élargiront dans la matinée. Le vent de secteur sud-est se maintiendra entre 10 et 15 nœuds sur l'est et aux Loyautés. Ailleurs, il sera d'est à sud-est entre 5 et 10 nœuds.